C'est super apprécié ce que vous faites. Un ministère tellement important et un peu invisible. Un peu, des fois, peu apprécié. Parce qu'on s'en rend pas compte. Mais combien c'est important. Donc, merci aux gardiennes. Et pour nous, on est dans Jean, au chapitre 11. Et on va juste lire un verset. On a lu le chapitre au complet. Je rappelais tantôt comment Jean, le chapitre 11, est tellement important dans le ministère de Jésus. Pour ceux qui connaissent un peu comment l'évangile de Jean est fait, c'est vraiment un effet crescendo. Il y a une tension qui monte, puis plus on avance, plus la tension est palpable. Puis ici, c'est vers la fin de cette tension dans le ministère public de Jésus, parce qu'après ça, il y a un relâchement de la tension, un peu comme en musique, hein? Tension, relâchement. Bien, la tension du ministère public a atteint pas mal son apogée, chapitre 11, chapitre 12. Puis après ça, on a le discours de la chambre haute, parce que là, c'est l'intimité de Jésus avec les disciples. Puis ensuite, bien sûr, c'est la croix, la culmination de tous les évangiles et de l'histoire merveilleuse de la bonne nouvelle qui est en Jésus. Et donc, je suis content que vous soyez là un matin. Êtes-vous content d'être là ce matin? Ah, c'est le fun, c'est mutuel. C'est le fun, on est tous contents d'être là. Si quelqu'un n'est pas content, mais gardez ça pour vous autres, parce que sinon vous allez contaminer. Puis le Seigneur va vous rendre content, vous allez voir, il est tellement bon. Dieu est extraordinaire. J'aimerais juste qu'on lise le verset 44 ensemble. Je vais prier, penser que j'ai des choses que je vais vous partager par rapport à cette image ici qu'on voit. Verset 44, « Et le mort, ici c'est Lazare, le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge, ou d'un linceul, si vous voulez. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Seigneur, ici on a un texte riche, un chapitre extraordinaire de ta parole, mais on veut s'arrêter sur ce verset qu'on vient de lire, avec la vérité qu'elle communique, le symbole, l'illustration que ça donne pour nos vies et je dirais spécifiquement pour la vie de cette Église. Je te remercie du fait que tu fais une œuvre extraordinaire dans les vies et dans la vie de cette Église. Et on te bénit pour ça, Seigneur. Et on veut continuer, aller de l'avant, oubliant ce qui est derrière, on porte les regards vers ce qui est en avant. Et toi, Seigneur Jésus, tu es le chef et le consommateur de notre foi. On regarde à toi, on s'attend à toi et on te remercie, Seigneur, que ta parole ne revient pas sans avoir fait son effet. Donc, on prie que tu puisses vraiment compléter le plan bienfaisant dans nos vies, dans notre Église ici et au-delà. On te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, ici, j'ai dit que je voulais juste lire un verset parce que je veux prendre un peu le temps de placer l'image. Imaginez-vous, là, on a Lazare, qui est ressuscité des morts. Imaginez-vous un peu la réaction des gens, puis on n'a pas besoin de se l'imaginer au complet, parce qu'on apprend un peu la pré-réaction, si vous voulez, avec ce que Marc dit au verset 39, mais lorsque Jésus a dit « Déliez-le », là, pensez à ça, là. T'as quelqu'un, là, qui est il est ressuscité, mais il sort d'un état où est-ce qu'après 4 jours, là, pour ceux qui ne savent pas, là, le mort sent. Puis ça a l'air qu'une des pires odeurs qu'il n'y a pas, là, c'est un mort que ça fait, tu sais, qui rentrait en décomposition. Fait que là, imaginez-vous, là, puis c'est pour ça que Marthe a dit au verset 39, ça fait pas mal de temps, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Fait que les gens se préoccupaient probablement de l'odeur, mais aussi de, tu sais, en enlevant les bandes, il va y avoir des bouts de peau qui vont partir, ou je sais pas trop. Puis là, lui, était-tu habillé en dessous de ça? Puis tu sais, comment, c'est comme, il devait avoir un malaise, là, c'est comme, comment ça va tourner cette affaire-là? Là? Puis, c'est pas simplement pour amener l'idée de s'imaginer la scène ici, mais c'est pour la transporter dans l'actualité présente en ce moment. Où est-ce que je vois dans cette image une illustration, ou si on peut dire une allégorie même, du ministère de la réconciliation. Et de comment le Seigneur veut qu'on se l'approprie. Parce que je vais développer cette image-là, là je vais juste mettre la table tranquillement. Mais le ministère de la réconciliation d'une église est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas automatique, on arrive là, ah, on sait comment exercer ce ministère, c'est donc bien beau, c'est extraordinaire, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, puis tout est bien qui finit bien. Non, il y a un prix à payer, puis c'est pas automatique, ça s'apprend par la grâce de Dieu. Et une église comme la nôtre, où est-ce que je vois, je me réjouis du fait que le Seigneur investit sa grâce dans les vies individuelles et dans notre vie collective, hein, parce qu'on l'a dit la semaine dernière, on est membres les uns des autres, on est plus que juste des petites parties comme ça qu'on met tout ensemble. On forme un corps, un tout. Et lorsque le Seigneur fait ça, lorsque le Seigneur investit sa grâce, ben, ça requiert de notre part une réponse. Ça requiert la réponse de la foi, de l'humilité et de l'amour qui veut, qui accepte de souffrir pour le bien et le péché des autres. Ça fait partie du ministère de la réconciliation. De souffrir pour le bien et le péché des autres. Jésus ici incarne ça. Jésus qui était Dieu fait chair, qui est venu plein de grâce et de vérité, quand il pleurait, là, oui, il avait de la peine, puis on voit son humanité, mais aussi il pleurait sur comment le péché détruit tout. Comment c'était pas le plan idéal, on n'était plus en Éden avec la vie, puis non, c'était sur la décrépitude, sur comment le péché a amené la mort et toute cette tristesse et tout ce qui vient avec. Et je dirais que le message d'aujourd'hui, je vais le qualifier de douloureusement réaliste. Je ne suis pas ici pour essayer de vous faire croire que il n'y a pas de problème dans la vie, que tout est beau. C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer, hein, et d'ailleurs les imaginations, on sait que Dieu voulait renverser nos imaginations. Mais on pourrait s'imaginer qu'une église comme la nôtre, où est-ce que le ministère de la réconciliation, ça veut dire que tout le monde est content, tout le monde accepte joyeusement ce beau ministère merveilleux, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est pas tout le monde qui accepte son acceptation. Puis c'est pas tout le monde qui est rendu à la même place dans sa marche chrétienne. On est tous à des endroits différents, puis c'est ça, justement, le ministère de réconciliation. Comme Dieu nous rejoint où est-ce qu'on est rendu, bien, le ministère de la réconciliation, c'est les uns les autres se rejoindre, s'accepter là où chacun est rendu. Et ça, c'est vrai dans notre église, c'est vrai aussi avec les autres personnes des autres églises. On n'est pas un club sélect des gens, les pense-bons, là, puis... Non, on est simplement des gens à qui Dieu fait grâce, et on se réjouit de cette grâce, et quand on a un autre enfant de Dieu qui aussi a connu cette grâce, bien, la question, c'est pas « t'es-tu rendu là, t'es-tu rendu là, ouais? » Non, c'est « on chemine ensemble », puis le ministère de la réconciliation, c'est s'aider là-dedans à avancer. Et je dirais, ce qu'on va considérer aujourd'hui, c'est simple. Il y a deux trajectoires, ou j'ai appelé ça deux options, face au ministère de réconciliation. Puis vous allez voir pourquoi il y a l'image ici de notre cher Lazare, là, qui sort tout, imaginez-vous, là, il sort de même. Là. OK? C'est pas quelqu'un qui est très libre de mouvement, OK? Donc, la première option face au ministère de réconciliation, c'est la frustration de manquer le ministère de la réconciliation. Et encore là, on retourne un peu à notre image, là. Je vous demande un peu d'imagination sanctifiée là, ce matin, pour voir comment Lazare, qui est tout pogné de même, là, comment ça devait être bien être frustrant. Hey, il vient d'être rendu à la vie, là. Il était mort. Là. T'sais, lui, là, il a vécu, là, il était malade, ça allait mal, puis il meurt. Puis là, il est ramené à la vie, là. Il est monsieur le miracle number one de Jésus. Là, t'sais. Mais il est pogné de même. Puis... il est comme un petit pingouin ambulant, là. Il peut pas trop faire grand-chose. Fait que ça devait quand même frustrant. Je veux dire, tu viens de vivre un des plus grands miracles qu'il y a dans la Bible, là. Puis t'es là, puis t'as l'air d'un pingouin devant tout le monde. Mais c'est là toute la force de l'image. C'était frustrant tant qu'il n'y avait pas des gens qui allaient aller à lui pour exercer un ministère pour l'enlever de... ce qu'il retenait. C'est ça le ministère de réconciliation. On a tous des choses qui nous retiennent, qui nous dérobent de jouir de la liberté que nous avons en Jésus. Christ nous disait, pour la liberté qu'il nous a franchie, nous sommes libres. Mais des fois, on est là, puis on ne jouit pas de cette liberté. Puis on a besoin les uns des autres que quelqu'un vienne, puis qui exerce ce ministère de la parole de Dieu, de la parole de réconciliation, pour qu'on puisse jouir de cette liberté. Moi, je pense que notre cher Lazare devait se dire, ça se peut-tu que je ne jouis pas au maximum de la nouvelle vie que le Seigneur m'a donnée? Comprenez-vous l'image? Il semble qu'il manque un petit quelque chose. Peut-être que si mes compagnons m'aident et me délient, ça va changer de quoi. Mais sinon, qu'est-ce qui s'arrive? Imaginez-vous, là, encore là, imaginons-nous, que tout le monde a peur, ils ne veulent pas toucher à quelqu'un qui sent le mort, puis ses vêtements, probablement que ça, tout ça, tout le kit au complet, ça ne sentait pas bon. Imaginez-vous comment ça devait être décourageant, puis même désespérant. Avoir vécu un si beau miracle, puis se retrouver dans une situation si pitoyable. Probablement qu'il aurait eu le goût de tout abandonner, de tout lâcher. Et mes amis, c'est exactement ce qui se produit avec des églises qui peinent à vivre ou à pratiquer le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à se remémorer constamment. Paul a dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Dieu veut se rappeler de ce que Jésus a fait de nous. Et ce qu'il fait avec nous en ce moment, c'est constamment se rappeler l'Évangile. La bonne nouvelle, l'Évangile aux saints, cet Évangile qu'on a reçu, comment on est appelé à marcher en nouveauté de vie dans cette bonne nouvelle de la vie qui est en Jésus-Christ. Et donc, Dieu nous appelle ainsi, entre nous, de façon mutuelle, à exercer le ministère de la réconciliation, parce que, la vérité, là, on n'a plus à marcher comme un esclave ou dans la peur, on n'a plus à être lié. Puis être pris comme ça. Mais, à cause qu'on a été affranchi, on peut marcher dans la foi, dans la joie, dans la liberté. C'est ça la vie à laquelle Dieu nous appelle. Jésus est venu donner la vie, puis il veut qu'on l'ait en abondance, sa vie de grâce, de vérité et de soutien dans l'épreuve. Tout ça, c'est pour nous autres, le peuple de Dieu. Ses enfants qui lui appartiennent, qui ont été rachetés à un grand prix. Et qu'est-ce qui arrive? Imaginez-vous, là. OK, là, on prend l'image de Lazare, puis on la transpose en 2023. Imaginez-vous que quelqu'un a le miracle de passer de la mort à la vie. C'est un Lazare qui sort de la tombe. C'est ça le salut, hein? Il était mort, il est rendu à la vie, il était dans le royaume de Satan, il est rendu dans le royaume de Dieu, il était dans les ténèbres, il était à la lumière. OK? On s'entend? C'est un miracle, le salut. Et donc, notre Lazare est là, puis il a tout son passé. Il a toutes sortes de choses qui amènent dans son bagage. Des peurs. Des choses auxquelles il s'identifie. Ah, moi, je suis un alcoolique. Ah, moi, je suis quelqu'un qui est colérique. OK? Puis là, il s'identifie à ça. Il a besoin de gens. Ça le tient captif. Il a besoin de gens comme vous et moi pour lui dire, ça, c'est ce que tu étais. Mais tantôt, on l'a entendu, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est plus ton identité alcoolique, colérique et compagnie. Là. Ton identité, c'est Jésus. C'est ce que lui a fait de toi. Ça, c'est le ministère. Ça, c'est la personne qui arrive aux côtés de cette momie, là, de cette personne qui vient de passer de la mort à la vie, puis qui lui prêche l'Évangile, même s'il est déjà sauvé, qui lui rappelle cet Évangile extraordinaire. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Je parlais de pingouin tantôt, là. S'il n'y a pas le ministère de réconciliation dans une église, on va être une église de pingouins. Où est-ce qu'on marche tout de même, puis on jouit pas de la liberté que Dieu nous a déjà donnée. Puis on va dire, ben la vie chrétienne, c'est ça. Puis on va, c'est la norme, c'est la normale, c'est un chrétien, ben c'est comme ça que ça marche un chrétien. Puis c'est rendu que, ben, c'est ce qu'on s'attend, gars, les chrétiens sont tous de même, ben toi t'es supposé être de même, puis c'est normal. La vie chrétienne, c'est une vie de pingouin, OK? Puis c'est pour ça que je dirais que il y a tellement d'églises qui sont momifiées. Il y a une image là-dedans. Il y a vraiment une image. En fait, ils sont esclaves. Esclaves de leur passé. Esclaves de leur péché. Auxquels ils s'identifient. Puis c'est comme, ben c'est ce que je suis. Puis non, c'est pas ce que t'es. Ça, c'est ce qui te retient. Ils se laissent définir par ces choses. Alors que ils ont simplement besoin de quelqu'un pour leur dire, pour leur proclamer non. Ça, c'est l'ancienne vie. C'est l'ancien Jean-Pierre. C'est l'ancien Dave. C'est l'ancienne Cindy. Maintenant, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et ces choses-là sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est accompli. Christ t'a affranchi. Et c'est pas à peu près, t'es complètement libre. Et ça, c'est pas banal, c'est pas sans importance comme vérité. Parce que si on se met à normaliser la vie de momie, là, pour prendre l'image, là, puis en passant, c'est pas normal une vie de momie, là. Ben, mes amis, on minimise l'Évangile même. C'est l'Évangile qui prend un coup. Puis là-dessus, venez avec moi dans 2 Corinthiens. Vous n'êtes pas obligé de garder votre place dans Jean, là. Venez avec moi dans 2 Corinthiens. On va aller voir une couple de passages dans 1 Corinthiens, mais justement, celui qu'on allait aller dans le message là-dedans, 2 Corinthiens, chapitre 5. Je veux qu'on lise le passage que Paul donne aux Corinthiens. Puis vous allez voir le contexte. Non seulement de 2 Corinthiens, mais aussi on va aller voir 1 Corinthien. Bon, je vais relater 1 Corinthien. Mais d'abord, j'aimerais qu'on voit ce fameux passage. On commence au verset 17, justement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés. C'est fait. C'est pas qu'il est en train, si on est un bon petit chrétien, une bonne petite chrétienne. Non, non. Il nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça, c'est pas un gros pasteur. Si t'es un enfant de Dieu, Dieu t'a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui a gravé sur nos cœurs la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Et évidemment que ce passage-là a une référence claire à notre ministère auprès des perdus. OK? C'est évident, là, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait dans le monde? On prêche la réconciliation. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais je crois qu'aussi, ça l'implique clairement le ministère aux saints. Puis c'est pas comme « sois réconcilié », c'est « t'es réconcilié ». Vis à la lumière du fait que t'es réconcilié. Et ça, c'est vraiment important parce que, oui, il y a cette parole de réconciliation qu'on a pour les non-sauvés, mais comment on a besoin de se la rappeler en tant qu'enfant de Dieu? Et là-dessus, justement, l'approche de Paul aux Corinthiens, ça nous aide à comprendre. Vous savez que l'Église aux Corinthiens, c'est pas l'Église modèle, en fait, c'est l'Église anti-modèle du Nouveau Testament. C'est l'Église à ne pas suivre, c'est l'Église... qui fait rougir un peu les chrétiens, parce que vraiment, ça faisait dur. Spécialement dans 1 Corinthiens, on apprend qu'il y avait de l'adultère, il y avait une espèce de compétition de chair. Ah, oh, moi je suis d'un, moi je suis de l'autre, puis moi je fais ci, puis je fais ça, puis j'ai des deux. Fait que c'était une église charnelle, puis qui allait vraiment pas bien, OK? Mais comment Paul s'adresse à eux? Dans la première lettre, c'est tellement révélateur. Seigneur m'a montré ça dernièrement, ça m'a frappé, là. Comment Paul, moi, là, si j'avais été Paul, là j'entends, hey, les Corinthiens, t'as-tu entendu ça? Ça chicane, ça s'envoie en cours, puis il y a fait l'adultère, puis ça fait donc bien dur. Hey, moi, je lui ai donné un bon coup de. Tu sais, un 2 par 4 de 10 commandements, là, bing, là, tu sais, un peu les ramener. Mais est-ce que c'est ce que Paul fait? Paul ouvre 1 Corinthien d'une façon surprenante, dit aux Corinthiens, aux saints qui sont à Corinthe, puis là, il dit, vous êtes bénis, vous avez les dons spirituels, vous avez la foi en Dieu.
Mais coudonc, Pierre, Paul, t'écris-tu en bonne église? T'es sûr que c'est pas ta semaine ci que tu voulais écrire, hein? Ou peut-être à l'église à Rome, là? Mais à Corinthe, ça fait dur, là. Je veux dire, pars pas de même, là. Tu vas les partir sur une chire. Tu vas leur donner des excuses pour qu'ils fassent n'importe quoi. Tu prêches la grâce à qu'ils vont ici. Ça doit te donner la permission de pécher. Parce qu'on a besoin d'une permission pour pécher. Tu sais, si Dieu ne donnait pas de permission, on ne pêcherait pas. Là, non, mais voici c'est quoi le message. Ce que Paul leur communique, il dit, les Corinthiens, vous agissez pas selon ce que Dieu a fait de vous. Vous vivez ensemble. Pour ça qu'il ouvre de même, il dit, « Hey, Dieu vous a pris, puis il vous a placé en Jésus, il vous a béni, vous avez tout pleinement en lui, puis vous, vous vivez selon la chair. » Autrement dit, vous vivez en insensé, puis il les reprend, là. On comprend qu'un Corinthien, ça brasse. Mais c'est la lumière sur la base du fait que ça n'a pas... Il y a une dichotomie entre ce que les autres ils font, puis ce que Dieu a fait d'eux autres. Paul leur prêchait le ministère de la réconciliation. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens, il leur parle de même. Parce qu'ils ont reçu la réprimande, puis ils ont accepté de vivre selon ce que Dieu avait fait d'eux autres. Puis, 2 Corinthiens, ça va tellement bien avec le fait, justement, que c'est la continuation de ce que Dieu faisait à travers Paul pour relever les Corinthiens, mais pas en leur disant, hey, c'est plus fort, dire, arrêtez de vivre par la chair, vivez selon ce que Dieu a fait de vous, puis ça, c'est par l'esprit, marchez par l'esprit, puis vous accomplirez pas les désirs de la chair. Il a dit ça aux Galates, mais comment il a dû dire ça à mener sur un coin de table à quelqu'un à Corinthe, là. Il ne peut pas croire un beau verset de main, il a dû partager ça à plus qu'une personne, là. Donc, on comprend mieux ici que le ministère de la réconciliation, c'est frustrant quand on ne le vit pas, quand on passe à côté, quand on manque la bénédiction comme Église de vivre le ministère de la réconciliation. Et donc ça, c'était l'option numéro 1. On peut manquer. C'est frustrant. Ça donne pas des églises joyeuses. Ça donne pas des chrétiens qui célèbrent le Seigneur. Ça donne des chrétiens aigris, peureux, qui veulent se cacher, qui ne sentent pas la liberté d'être vrais. Parce que s'ils sont vrais, ils vont manger une claque. Ils vont manger le coup de 2x4 des 10 commandements. Parce que Paul ne l'a pas fait, mais il y a des chrétiens qui ont voulu prendre. Ah, c'était peut-être une bonne idée, je vais l'essayer, moi. Puis, l'idée vraiment ici, c'est la mort. C'est pas la joie. Et donc, pour ça, je l'ai résumé par le mot frustration. Mais heureusement, il y a la bénédiction de pratiquer le ministère de la réconciliation. C'est la deuxième option. La bénédiction de pratiquer le ministère de la réconciliation. Et là-dessus, écoutez, et je l'ai partagé il n'y a pas longtemps, d'un autre verset qui m'a frappé. Tu sais, je vous prête les choses que Dieu parle dans mon cœur. Je suis en train de déborder en ce moment de ce que le Seigneur fait dans ma vie. Mais un verset qui m'a vraiment travaillé beaucoup ces derniers temps. Hébreux 2,14, ça dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, et ça c'est Jésus y a également participé lui-même, afin que, écoutez bien, par la mort, Jésus, là, par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Jésus a vaincu la mort par la mort. La puissance que Dieu a utilisée pour vaincre l'ennemi qui avait le pouvoir de la mort, c'est par la mort de Christ. Conquérir la mort par la mort, c'est une loi spirituelle, c'est la voie de la délivrance. Et ça n'a peut-être pas de bon sens humainement. Mais n'est-ce pas ce que la croix nous révèle? Hein, il y avait la mort partout sur terre, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, puis la mort s'est répandue à tous les hommes. Ben Christ est venu mettre fin à la mort en lui mourant à notre place. Et encore là, il y a une vérité importante, parce qu'ici, ça nous dit dans ce verset-là que nous, là, les enfants, on participe à ça. On est participants de la nature divine. C'est pas quelque chose qui est au loin de 2000 ans que Jésus a fait, c'est quelque chose que Dieu a fait avec nous. On est mort avec Christ. On est unis dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, hein, puis on peut continuer, là, son ascension, sa glorification. On est unis à Christ complètement dans tous les aspects de son œuvre. Et ce que Dieu nous appelle simplement à faire, c'est s'approprier cette mort, accepter humblement, et je dirais vraiment oui par la foi, la communion de cette mort. N'est-ce pas que Paul, dans Philippiens, il parle de connaître Christ, puis la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. C'est pour ça que je vous ai dit que le message était douloureusement réaliste. Vous voulez la vie de victoire, d'abondance, de joie, de paix que Dieu donne, il faut accepter que ça passe obligatoirement par la mort. C'était vrai pour Jésus, ça n'a pas le choix que d'être vrai pour nous autres, ses enfants. Parce qu'on est participants de la nature de Dieu. Et donc, accepter, ok, puis là ici, je vais clarifier des choses, là, c'est accepter que nous sommes morts. C'est pas essayer de mourir, là, puis de mettre un fardeau, faut que tu meurs, faut que tu te mortifies, non, non. Mais nous sommes morts, mais ça veut dire quoi? Je suis mort à mes plans que j'avais, à mes ambitions, à mes droits, je suis mort à mes attentes, et patati et patata, ok? On peut remplir toutes sortes de choses. Et ça, ça vient pas là, d'une place étrange, là. Ça vient de Jésus lui-même. Écoutez bien ce que ça nous dit en Philippiens 2. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'était quoi les sentiments qu'il y avait? Regardez bien. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Ça, c'est la kénose, hein? Lui qui était dans la gloire éternelle, Dieu. Il a accepté de mettre de côté certains attributs divins. Il n'a jamais arrêté d'être Dieu, mais il a mis de côté pour être en dépendance à Dieu le Père. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est ça aussi que Dieu veut faire en nous. Accepter l'humiliation, même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ça, accepter notre mort. Et lorsqu'on accepte la mort, on est sur la voie de la délivrance. Parce que Jésus, en acceptant la mort, il est allé au tombeau, puis qu'est-ce qui est arrivé? 3 jours plus tard, Dieu lui a rendu la vie. Comme ici, puis ça a été prié tantôt, on ne peut pas se donner la vie nous-mêmes. Les morts ne se ressuscitent pas par eux-mêmes. Quelqu'un ne peut pas être sauvé en essayant de se sauver lui-même. C'est Dieu qui donne la vie. Mais de la même manière, comme enfant de Dieu, lorsque j'accepte ma mort, puis que je n'essaye pas de me rendre à la vie, Dieu va faire ce que juste lui peut faire, il va mettre la vie là, mais Dieu va le faire juste avec quelqu'un qui est mort. Parce que quand on essaye, on empêche Dieu. Parce que c'est nous qui vivons. On essaye, puis Dieu dit, je veux te donner ma vie, mais là, ta vie est dans les jambes. Ta chair, toi. OK? Et ça, mes amis, c'est quelque chose qui, dans l'humilité, dans la foi, Dieu nous appelle à vivre à tous les jours. À prendre notre position en tant que mort au péché. Se regarder, Romains 6, 11, se regarder comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Puis lorsque je suis dans cette position, là, je suis prêt à céder mes membres. Dire, Dieu, je n'ai pas de volonté propre, je n'ai pas mes ambitions, je n'ai pas mes plans. Donne la vie à ce que tu veux dans ma vie. C'est toi qui décides. Parce que peut-être que ce qui, moi, me motive tant, c'est une branche que Dieu veut émonder. Ça ne va pas porter de fruits, ça. Mais si, justement, je n'ai pas de volonté, je suis mort, mais Dieu il peut dire, OK, ça, on va donner de la vie. Ça, je vais faire de quoi avec ça? Tu vas me glorifier avec ça, mon enfant. Notre rôle, c'est juste de vivre à la lumière de cette mort. Savez-vous que lorsque Dieu permet qu'on soit blessé, on en parlait tantôt, tu sais, avec Job, là, c'est Dieu qui a dit à Satan, OK, vas-y, tu peux faire ça. Satan, c'était l'instrument de Dieu. C'est un peu rare parler de même, mais Dieu est souverain. Là. Puis, je pense que c'est Luther qui a dit, même le diable est le diable de Dieu. Dans le sens que c'est une créature, là, c'est pas lui qui décide ce qu'il veut. Il n'y a personne d'indépendant dans l'univers sauf Dieu. Amen. Parce qu'on est tous des créatures de Dieu, on n'a pas d'indépendance. Et donc, Dieu permet qu'on soit blessé. Des fois, c'est dans les choses du passé. Des fois, c'est dans le présent, quelque chose qu'on vit qui est blessant. Mais écoutez bien, lorsque Dieu permet qu'on soit blessé, c'est pas pour nous aider, okay, à faire partir de la douleur. Pouf! Plus de douleur, c'est le fun, c'est parti. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Quand on a mal, Dieu enlève la douleur, au secours, je veux que ça parte. Mais Dieu veut bien mieux que ça. Non, Dieu veut nous rencontrer pour nous guérir. Il ne veut pas changer la douleur, il veut guérir la source de la douleur. Parce que c'est ça le problème, c'est ce qui... C'est la plaie qui veut guérir pour que vraiment on puisse expérimenter sa guérison, sa vie. Et maintenant, ça c'est vrai de façon individuelle, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. De façon collective, ou je dirais ecclésiastique, de façon en église, OK? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire de réapprendre à vivre, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut tout réapprendre. On pensait d'une façon la chair, puis on réapprend tout par l'esprit. C'est de réapprendre à vivre comme des personnes réconciliées. Et pas comme des personnes qui essayent d'être réconciliées, parce que qu'est-ce que la majorité des chrétiens font? Ben là, si je fais ça, Dieu est content, puis là, tu sais, je vais essayer de faire de quoi, puis je vais comme être réconcilié plus. Ça, c'est la pensée de la loi. Fais et tu vivras. Alors que la Bible dit, le juste vivra, la vie, elle est par la foi. D'où l'importance vitale du ministère mutuel de la parole de Dieu entre nous. Se remémorer réciproquement l'Évangile. Tu es réconcilié, tu es aimé, tu es pleinement accepté par Dieu. Tu n'as pas besoin de faire de quoi pour essayer d'être accepté. Tu l'es déjà. C'est important qu'on se rappelle ça. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on vit notre liberté, notre sécurité, puis notre valeur. J'ai pas besoin d'essayer d'avoir de la valeur devant Dieu. Dieu m'a donné de la valeur. Il m'a racheté par son propre sang. Il me l'a conféré par ce qu'il a fait de moi, avec l'œuvre majestueuse du calvaire. Et ça, ça nous confère une nouvelle identité. On est maintenant des saints. Et vous, on n'est plus des pécheurs. On est rendu des saints. Hey, si Paul le dit aux Corinthiens, on peut mettre la badge, là. Je suis un saint. C'est pas se vanter, ça, c'est dans l'humilité d'accepter. Waouh, quoi? Moi, un saint? Oui. T'as Jésus comme ton sauveur, comme ta vie. C'est ce que Dieu dit de toi. T'as peut-être la misère à l'accepter, mais arrange-toi avec Dieu, c'est lui qui l'a dit, là. Puis rappelle-toi quand t'as de la misère, il l'a dit aux Corinthiens. Ah, ouais? Ouais, il l'a dit aux Corinthiens. Et ça, c'est la bonne nouvelle de notre émancipation. On a été libérés. C'est la bonne nouvelle que Dieu vit en nous. Et qu'ainsi, à cause que Dieu vit en moi, je peux accueillir la mort, la douleur de ce monde brisé. Parce que je sais que ce n'est pas la fin de l'histoire. Puis je peux l'accepter aussi dans la position que je suis de mort. Je suis mort à toute cette douleur, ces choses qui viennent. Puis c'est ça qui m'amène sur le chemin de la vie. Et écoutez là-dessus, ben non, venez avec moi, vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 5, venez avec moi dans chapitre 4. Paul vivait ça au quotidien. On va commencer au verset 7, tiens. Paul avait parlé là de la splendeur de l'Évangile, comment c'est glorieux, puis au verset 7, il dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. » Regardez là. Dites-moi si c'est une belle vie d'évangile de prospérité qui vivait là. « Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. » Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Il était dans le centre de la volonté de Dieu, puis à cause de ça, il souffrait. C'est pas parce que Dieu l'aimait pas, c'est pas parce que Dieu le rejetait, c'est parce que Dieu l'aimait, puis parce que Dieu l'acceptait qu'il souffrait comme ça. OK? C'est clair. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous. Et la vie agit en vous. C'est vraiment puissant. Revenez sur ces versets-là, méditez-les. Il y a vraiment tout un trésor qui est là. Pourquoi? Parce que c'est la bonne nouvelle, écoutez bien, qu'on n'a pas besoin de changer. On est déjà sans changer. Si j'accepte ma mort, j'arrête d'essayer de me changer. Non! Je suis mort à essayer d'être mieux. Je suis mort à essayer que telle chose se fasse. Je prends cette position parce que Dieu l'a déjà fait. Je veux vivre selon ce que Dieu a fait de moi. Puis pour ça, il faut que j'arrête d'essayer. Il faut que je vive cette mort Puis là, la vie de Dieu va agir. Amen. La mort amène à la vie. On conquiert la mort par la mort. Amen. Maintenant, Dieu nous donne cette bonne nouvelle. Il nous a changés. Donc, j'ai pas besoin d'apprendre à marcher comme mon petit Lazare imaginaire, là, comme un pingouin. On n'a juste pas besoin d'aller là. C'est carrément inutile. Ça n'a pas rapport, comme on dit. Là. C'est pas dans l'enseignement de la Bible. Voici, apprenez à marcher avec un linceul tout poigné comme une momie. C'est pas ça la vie à laquelle Dieu nous appelle. Mais Dieu m'appelle à exercer le ministère de la réconciliation. Où est-ce que les uns et les autres, on s'approprie notre liberté? Puis oui, OK, on a une couple d'affaires justement qui... On s'aide les uns et les autres avec ça, mais à la lumière du fait de la vie, la libération que nous avons déjà. Écoutez ce que ça dit au Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, demain nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et si on n'exerce pas, si on n'expérimente pas, si on ne grandit pas dans ce ministère de la réconciliation en tant qu'Église, ben on peut apprendre peut-être à avoir un bon témoignage. Comment ici l'ont entendu? Hein, comme chrétien, il faut que tu aies un bon témoignage. OK? Mais est-ce que j'apprends à marcher en nouveauté de vie? C'est pas pareil. À part avoir un bon témoignage, là, c'est des choses à faire. Mais apprendre en nouveauté de vie, c'est ce que Dieu a fait de moi. Il y a un monde de différence entre les deux. Il y en a un, c'est des choses que je suis capable de faire puis qui vont faire appel à ma chair pour le faire. Je vais avoir un bon témoignage. Pensez-vous que si j'apprends à marcher en nouveauté de vie, c'est un bon témoignage, ça? En fait, c'est le seul bon témoignage, parce qu'essayer d'avoir un bon témoignage par moi-même, c'est pas un bon témoignage. Les gens, c'est moi qui vont voir. C'est pas moi qui ont besoin de voir, ni la version améliorée de moi. C'est Christ en moi qui ont besoin de voir. C'est ça qui est un bon témoignage. C'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Mais comment qu'on l'entend dans nos églises? C'est important d'avoir un bon témoignage. Mais pourquoi on n'entend pas plus? C'est important de marcher dans cette vie, en nouveauté de vie. Autrement dit, pour le dire dans d'autres mots, on n'a pas besoin d'apprendre à rénover notre vie de l'ancienne alliance. On a besoin de vivre selon la nouvelle alliance, selon le fait que Christ vit en nous. Je n'ai pas besoin d'apprendre à me dépouiller moi-même, à me dépouiller, parce que ça, c'est quelque chose que Dieu a déjà fait. Je dois apprendre à vivre à la lumière du fait que Christ m'a dépouillé. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et on va... J'ai presque fini, mais j'ai parlé tantôt que c'est un message qui était douloureusement réaliste. Savez-vous, c'est quoi un peu le côté poche? Le côté pas très vendeur, mais c'est pas grave, moi je vends rien, là. Ce que je donne, c'est gratuit, mais ça veut dire que je peux aussi donner des mauvaises nouvelles gratuites. Si on veut vivre ce ministère de la réconciliation, si on veut accepter notre mort pour vivre la vie de Christ, inévitablement, ça va vouloir dire la communion de ses souffrances. Ça va vouloir dire d'être pas compris, d'être rejeté, d'être vu comme ci, d'être vu comme ça. Par les perdus, puis même, malheureusement, même par les enfants de Dieu, par le peuple de Dieu. C'est quand même poche, hein? J'aimerais ça vous dire autrement, mais c'est la réalité. Christ est venu, était un homme de douleur accoutumé à la souffrance. Puis c'était Dieu, là. Dieu qui venait plein de grâce et de vérité, là. Est-ce qu'on pense que nous, parce qu'on est smart, que les gens vont nous aimer? Pas si on... Si on veut plaire à Dieu, on peut pas plaire aux hommes en même temps. Il y a un prix, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'accueillir cette mort, parce que c'est comme ça... C'est la voie de la conquête. Lorsque j'accepte la communion des souffrances de Christ, j'accepte aussi le fait que lui va donner la vie, que lui va faire ce que juste lui peut faire. La récompense, elle est grande. Et là-dessus, je vous laisse avec une image qui vaut mille mots. J'ai lu un livre dernièrement, ça m'a vraiment parlé. Mon ami Raph, les gars, vous rappelez-vous, j'avais parlé de mon ami Raph il y a une couple de semaines. Puis, il donne un exemple très...
personnel et réaliste. Et j'aime ça les gens qui n'essayent pas de se penser bon puis qui disent les choses telles quelles. Notre beau Ralph est là, puis c'est le conférencier d'une retraite d'or. OK? Fait que sont dans les montagnes, je ne sais plus trop quel état aux États-Unis. Il y a une cabine là, puis toute une gang de gars. Puis lui, vu qu'il préparait, ça a travaillé, il a vraiment dormi pendant 4-5 jours d'affilée. Puis la nuit, juste avant que ça soit lui qui aille à parler à tous ces hommes-là réunis, il a dormi comme un bébé. Puis il s'est levé à retard le matin, il descend en bas, tous les gars étaient en train de manger, puis là, c'était le festival du sarcasme. Hey, mon employé, ça fait longtemps que je t'aurais éclairé, puis tout ça, puis c'était du sarcasme. Tu sais, le sarcasme, ça peut blesser.
Oui.
Fait que là, le gars, il s'en va dehors, parce que il était blessé. Puis là, il dit, Seigneur, moi, là, je vais pas lui parler à ces gars-là, là. Excuse, mais garde. Ça me tente pas, tu sais. Puis ça, il a simplement dit, fais-moi confiance. Puis, en parlant au Seigneur, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Sois vrai. OK? Il y a eu un moment avec Dieu, là. Tu sais, pas, il était dans son auto, il était allé prendre une manche. Il est parti. Il était pris avec les gars. Puis, le Seigneur, il a dit, c'est pas ta volonté qui compte, c'est la mienne. Puis moi, là, je veux juste que tu sois vrai. Puis, il retourne en dedans. Il va voir la gang de gars. Puis même quand il retourne, le sarcasme repart. Puis il dit, gars, je vais vous dire de quoi. Puis, ben honnêtement, il dit, là, je me sens blessé par le sarcasme. Puis il a juste été juste honnête. Puis il n'a pas chanté des bêtises aux personnes, il a dit comment il se sentait par rapport à ce qu'il avait vécu. J'ai vu qu'est-ce que ça a donné. Il a amené la lumière de Christ là-dedans, puis ce que ça a fait, c'est que les gars étaient eux-mêmes sur la côte. Oui, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. J'aime pas ça moi-même quand je deviens sarcastique de même, puis méchant. Les gars eux-mêmes, ça l'a amené le ministère de conviction de l'Esprit sur leur camp. Puis à partir de ce moment-là, là, la réunion, là, la rencontre était absolument plus pareille. Savez-vous quoi? Il y a une momie qui a laissé les bandelettes, comment ça l'appelait, les attaches partir, puis ça a fait que toute la gang de momies qui était là, le ministère de la réconciliation, ça l'a fait des petits, puis finalement, là, ils s'en rappellent, ces gars-là, de ce week-end-là, comme un temps mémorable où est-ce qu'ils ont vécu la vérité dans l'amour d'une façon unique et extraordinaire. Juste parce qu'il y a un gars qui a vécu sa mort. Pensez-vous que Dieu voulait qu'il vive le fait, es-tu mort à ta réputation? Et tu vois, tes droits de dire, hey, ces gars-là, voyons donc, parce que. Il a juste vécu sa mort, puis Dieu, paf! Il a inondé de sa vie, non seulement lui, mais toute la gang. C'est ça le ministère de la réconciliation. C'est à ça que Dieu nous appelle. Pour ça, je vous dis, il y a un prix à payer. Fait que quand t'es pas le gars, là. En fait, je me rappelle bien, là, parce que un petit bout, j'ai lu cette histoire-là dans le livre, mais. Je pense qu'il y avait l'idée comme d'aller au village et de ne pas revenir, genre partir pour la journée, là, les gars, organisez-vous. Mais Dieu ne l'a pas laissé aller. Parce que Dieu avait quelque chose de beau à faire. Il voulait conquérir la mort par la mort afin que la vie se répande. Je viens de vous illustrer là, la même histoire que Lazare, mais avec un exemple moderne, puis ça fait le tour vraiment de ce que je voulais vous partager un matin. Donc, voici mon appel ce matin. Ça peut ressembler à quelque chose de même, de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Ça peut ressembler à ça d'accepter notre mort afin que la vie de Jésus se manifeste. Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes? Et je dirais même plus loin, est-ce que c'est quelque chose que tu recherches? Ça fait un peu maso, ça fait un peu bizarre. Mais si je comprends comment ça marche, la vraie vie, oui, ça va être quelque chose que je vais non seulement accepter, mais rechercher. Je suis mort. Fait que je vais essayer d'arrêter de vivre. Je vais laisser Christ vivre en moi. Puis là, je vais voir comment mon Dieu est extraordinaire et merveilleux. Puis là, je vais amener un dernier point. Là. Je sais, il y en a ici là, que ça fait comme... Ça tord le cœur, même. Ça va chercher des peurs, des douleurs vives, peut-être même des plaies ouvertes dans votre vie.
Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que Dieu, le grand médecin de nos maux, hein, c'est un des cantiques qu'on chante. Dieu, le baume de Galaad, c'est lui qui t'envoie cette souffrance, c'est lui qui permet que ton cœur soit tordu de même. C'est lui. Parce qu'il ne veut pas juste te guérir, il veut toi. Puis il veut se manifester à toi, il veut se manifester à travers toi. Il laisse la mort agir afin que la vie puisse se manifester. C'est ce qui arrivait avec Paul. Ses écharpes d'enchères puis tout ça. C'est des lois spirituelles, c'est des vérités inébranlables, inchangeables et éternelles. Dieu nous appelle à lui par la souffrance puis par la douleur. C'est pas évangile de la prospérité. Tout ça, en passant, c'est un faux évangile. Ça vient de l'homme, ça vient, il y en a qui disent ça vient de l'enfer. Je ne sais pas si ça vient de où, mais ça ne vient pas de Dieu. Que là, si tu donnes de l'argent, puis si tu fais ci, puis c'est un évangile des œuvres. Et c'est un autre évangile. Non, Dieu se sert de la souffrance et de la douleur. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je l'accueille? Parce que c'est là que je vais rencontrer le Dieu de toute grâce. Puis si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, votre souffrance aussi a un sens. Parce que la Bible nous dit que Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Ça vient du livre de Job, 36:15. Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Si vous ne connaissez pas Dieu et que vous souffrez, c'est parce que Dieu vous appelle à lui. Acceptez son Fils qui a souffert afin que vous puissiez être guéri, qui est mort afin que vous puissiez vivre. Et mes amis ici qui sont les enfants de Dieu, rachetés par le sang de Christ, le ministère de la réconciliation, sa valeur, prend tout son sens dans une église comme la nôtre lorsque chacun accepte. Dans cette église imparfaite, cette église de personnes qui se font du mal. Mais quand chacun accepte de souffrir pour le bien, puis le péché des autres. C'est ça l'amour, c'est ce que Christ a fait. Et on marche dans ses traces. Seigneur, merci pour ta parole et ce temps ce matin, sobre. Oui, c'est un message qui est douloureusement réaliste. Oh, mais qui est merveilleusement réconfortant parce que on expérimente la vie lorsqu'on accepte notre mort, de passer par la mort, de vivre cette mort. Seigneur, ça n'a pas de bon sens pour la pensée humaine et ces pensées-là, on te demande de les amener captives à l'obéissance de Christ. Mais par la foi, Seigneur, on les croit, on les accepte, on accepte tes voies et on accepte la mort comme étant la voie de la vie. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui amènes la vie dans nos circonstances, dans tout ce qu'on peut vivre dans nos cœurs, Seigneur. Notre part, ce n'est pas d'essayer d'avoir la vie, c'est d'accepter qu'on est mort et que c'est Christ qui vit en nous. Béni sois-tu, notre Dieu, que tu l'as voulu ainsi parce qu'on est forcé de dépendre de toi. On ne peut pas le faire nous-mêmes. C'est merveilleux, Seigneur, parce que c'est comme ça qu'on te voit, qu'on te découvre. Et qu'on te manifeste dans nos vies. Donc, Seigneur, on te rend gloire que tu l'as voulu ainsi. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, si vous voulez prier.